my days on earth I will away. The moment that I see you face to face, there's nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy.
Oui, mais c'est ça, c'est qui qu'il a en fait. J'ai pas été aller retourner pour voir qui. Mais j'aime bien les surprises. Mais les chapsticks, c'est moi qui les a fait. Alors si t'as besoin d'autres, j'en ai encore.
Est-ce que je dois repasser ce morceau de l'intro musical?
Ah oui, je pense.
Bonjour.
Tu m'as accueilli, ouvert les bras. Alors que mon péché t'a mis en croix, trop de fois je t'ai tourné le dos. Pourtant, Seigneur, tu ôtes mon fardeau. Enseigne-moi tes voies pour agir comme toi. Je veux être artisan de paix. Même si mes mains sont abîmées, Seigneur, je veux te ressembler. Donner ma vie pour refléter ton amour parfait. Souffert parmi les tiens, ils t'ont condamné, toi souverain. On t'a maltraité et rejeté, mais tu as choisi de pardonner. Oh, 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 enseigne-moi tes voies pour aimer comme toi. Je veux être artisan de paix, même si mes mains sont abîmées. Seigneur, je veux te ressembler, donner ma vie pour refléter ton amour. Être artisan de paix, même si mes mains sont abîmées, Seigneur, je veux te ressembler, donner ma vie pour refléter ton amour parfait.
Bonjour à chacun, bonjour à ceux qui sont présents, à ceux qui sont à distance, bienvenue à ceux qui sont peut-être là pour la première fois. Il y a en tout cas une personne, Marie-Julie Comer, invitée pour prêcher chez nous, normalement en échange de chair, avec l'Église protestante évangélique du Genevois, où Marie-Julie est pasteur, mais il a un petit arrêt maladie qui fait qu'il n'a pas pu assumer ce matin. Voilà. Alors, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, cette période où nous attendons Noël. Nous nous préparons à la venue du Sauveur, d'un Sauveur qui est venu bien différent de ce qu'on attendrait d'un Sauveur habituellement dans ce monde. Noël, la naissance de Jésus pour les chrétiens, mais bien au-delà, c'est une aspiration à la paix que beaucoup de gens ressentent et évoquent au temps de Noël. C'est aussi ces temps de retrouvailles en famille qui peuvent à la fois représenter une attente impatiente, le souci des cadeaux qu'on va devoir faire, et parfois la souffrance doublement ressentie quand il y a des ruptures dans les familles. Puis notre monde d'aujourd'hui, nous voilà en Europe avec des bruits de guerre qui nous assaillent dans les nouvelles depuis 3 ans. Mais en fait, il y a des situations plus dramatiques que celles que nous vivons en Europe depuis bien plus longtemps dans d'autres continents. La Bible elle-même, c'est un livre qui est plein de guerre et de violence. Et qui s'ouvre par à la fois un magnifique récit d'une création extraordinaire, et puis juste après, un conflit fratricide. Oui, un livre qui est bien réaliste sur notre condition humaine, mais ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour annoncer dès le début une œuvre de salut que Dieu est en train de faire dans l'humanité et parmi nous. Ce matin, nous sommes rassemblés autour de Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Nous sommes accueillis par Dieu parce que nous avons une espérance à vivre et à transmettre. Avant la naissance de Jésus, dans l'évangile de Luc, nous est raconté un texte de Zacharie, qui était un prêtre. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut semblable à celle du soleil levant pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et la paix dont il est question ici, c'est bien plus qu'une absence de guerre ou que la fin de la guerre, c'est la vie en plénitude divine. Prions. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tes promesses, merci pour l'espérance que tu nous donnes. Éclaire-nous par ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la recevoir. Nous voulons maintenant nous tourner vers lui dans un temps de louange par le chant.
À vous lever pour entrer dans la joie de notre Seigneur. Comme Sylvain l'a dit, on approche du temps de Noël, un temps où les jours se raccourcissent, la lumière diminue à l'approche du solstice d'hiver. Et c'est là, dans l'ombre la plus complète, dans le silence gelé des campagnes, que la lumière la plus brillante apparaît. On veut chanter proclamer la victoire de la lumière sur les ténèbres, de Jésus-Christ sur le mal. On veut croire que malgré toutes les horreurs, toutes les atrocités qu'on voit, qu'on entend, on veut croire que Jésus, là-dedans, il est souverain, c'est notre espérance, c'est notre rédempteur, et il est vivant. Nous chantons « Christ est la lumière ». Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Oh, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Chaque jour, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Amen. Seigneur, tu es saint, tu es notre trésor, tu es notre seul bien, le seul qui mérite d'être adoré et d'être loué. Ce matin, nous voulons quitter nos préoccupations terrestres et nous centrer sur toi, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, le seul qui compte dans nos vies. Nous voulons chanter un Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Alléluia qui veut dire louer Dieu. Chantez-le. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. digne es-tu, ô notre Dieu. Chantons Alléluia. Parler, viens nous enseigner, viens nous révéler tes plans, tes pensées ce matin. On veut se mettre à ton écoute. On veut être là pour toi. On veut ouvrir nos cœurs à ta parole. Viens nous révéler tes plans élevés, même si ceux-ci ne correspondent pas à nos pensées. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Parle-nous, nous venons.
toi recevoir le pain, ta parole sainte. Viens Seigneur, par ta vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance, et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis Seigneur tes projets.
Seigneur, que ton règne vienne, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Voilà, merci au groupe de louanges très fraternel, hein, au sens propre du terme, ce matin. Voilà, alors, je vais prier et inviter les enfants à rejoindre leur groupe. Oui, Seigneur, parle-nous ce matin, parle-nous ici, parle à ces enfants, fais-nous découvrir ton amour, fais-nous découvrir tes plans pour nos vies, et que ta parole nous rejoigne chacun selon ses besoins, sa situation. Et bénis toutes les personnes, toute cette équipe qui s'occupe de nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez descendre. Voilà, j'invite Marie-Julie à nous rejoindre pour nous apporter le message que le Seigneur lui a donné à cœur. Ok ? Merci. Seigneur, je te prie pour Marie-Julie, pour que tu l'inspires et que voilà, tu lui donnes de nous transmettre un message qui nous renouvelle, qui nous encourage, qui nous interpelle, qui nous fasse vivre. Amen.
Bonjour à chacune et à chacun. Alors c'est avec joie que je suis avec vous ce matin, mais aussi avec un petit peu de timidité, puisque je ne connais aucun d'entre vous. Alors pour démarrer, je pense que je vais quand même dire quelques mots, parce que j'imagine que vous allez m'accorder votre confiance en m'écoutant. Mais bon, vous prenez quand même un risque, étant donné qu'on ne se connaît pas du tout. Alors j'espère aussi qu'en me présentant un petit peu, ça sera aussi plus simple d'entrer en quelque sorte en contact et en confiance. Donc je m'appelle effectivement Marie-Julie, j'habite de l'autre côté de la frontière, pas si loin que ça, à Saint-Julien en Genevois. Ça fait pas si longtemps, moins d'un an, j'ai déménagé l'année dernière, enfin cette année on va dire encore, au mois de janvier, avec ma famille. Donc j'ai un mari, Kevin, qui d'ailleurs, au pied levé pour le coup, apporte la prédication dans notre église en aidant. C'est bien pratique. Anciennement, il était pasteur, donc il a quelques réserves de culte, de prédication de l'avant. Et puis ensemble, eh bien, on a eu 3 garçons. Et d'ailleurs, l'aîné a fêté ses 15 ans hier. Voilà, et puis simplement peut-être 2-3 mots sur mon parcours. J'ai quand même un petit peu déménagé. J'ai fait mes études de théologie en région parisienne, à la fac de théologie de Vaux-sur-Seine. Après, avec mon mari, on a débarqué en Haute-Savoie, mais à Thonon-les-Bains, pour un premier ministère en couple pendant 7 ans. Ensuite, on est reparti un petit peu dans un peu plus au nord de la France, en Franche-Comté, dans le Doubs. Peut-être que vous entendrez un peu mon accent, parce que je suis native. En fait, je suis native de là-bas. Donc, on a passé 10 ans là-bas, et puis donc Kevin était pasteur. Moi, je me suis principalement occupée de nos 3 enfants, et une fois que le dernier est entré à l'école, Dieu m'a fait la grâce de découvrir, on va dire, plutôt un ministère d'évangélisation et d'encouragement dans les médias, dans le milieu de la radio. Voilà, et puis après, quelques changements, la crise de la quarantaine en quelque sorte. Mon mari et moi, on a tous les deux quitté nos travails respectifs, et puis voilà, changement de travail. Et moi, je suis revenue au pastorat. Donc ça fait quelques mois, à nouveau, que je redécouvre ce beau ministère. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop longue, mais je vous ai fait ma petite présentation de mes quelques dernières années de vie. Cette fois-ci, on va passer à la prédication. Et pour ce matin, je vous propose de lire chez le prophète Ésaïe, au chapitre 2, quelques versets, les versets 2 à 5. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. » Pour faire simple, je vous propose 3 parties. Un premier mot de contexte sur la prophétie. Ensuite, on parlera des 3 vérités qui ressortent dans ce texte, 3 vérités essentielles au sujet de notre Dieu, et une dernière partie de mise en route. Donc pour cette première partie de contexte au sujet de la prophétie, du ministère prophétique, et bien sûr d'Ésaïe, puisque c'est un texte du prophète Ésaïe que nous avons lu. Prophétie, ce mot en français, il vient du terme grec prophémie, qui veut dire dire à l'avance, dire avant. Alors, ce qu'il faut dire et qui est important, c'est que la prophétie biblique, donc la prophétie qui vient de Dieu, elle est tout à fait hors du commun, avec des auditions directes de la voix de Dieu. Et pourquoi je dis qu'elle est hors du commun ? C'est parce que, à l'époque, les nations alentours, les peuples, avaient aussi leurs prophètes, leurs devins, leurs sorciers, etc. Donc, la prophétie donnée par Dieu, eh bien, elle est tout à fait différente et elle se distingue. Et notamment parce qu'il y a des prophéties qui ont des portées, une portée très large et aussi très précise. Dans les prophéties de la Bible, Dieu va annoncer son plan général et aussi des événements très précis. 8 siècles avant, la naissance de Jésus est annoncée. J'ai aussi pensé, pour essayer d'expliquer la prophétie, à l'image du ricochet. Bon, l'image n'est pas parfaite, mais je trouve que ça dit quelque chose. Bien souvent, une prophétie, elle va se réaliser comme en ricochet, avec une application quasi immédiate, puis de nouveau un accomplissement, puis encore plus loin, un accomplissement. Et on va en reparler justement avec notre texte. Un petit point d'attention, c'est qu'il ne faudrait pas non plus prendre les prophéties comme le Graal, la recherche absolue. La prophétie qui vient de Dieu, la recevoir, ce n'est pas comme aller voir Madame Irma qui va vous donner la pluie, le beau temps pour votre vie, la réussite ou l'échec en amour ou pour votre travail. Non. Pour vous qui avez peut-être déjà lu les textes prophétique, vous savez qu'il y a des textes aussi très durs, difficiles à entendre, parce qu'ils sont en lien avec le péché du peuple de Dieu et le jugement qui va avec ce péché. Mais ce qu'il y a de magnifique aussi, dans un même texte d'un même prophète, ben, il y a aussi cette lumière d'espérance qui est toujours là. Il y a toujours cette annonce du salut qui vient pour ceux qui le désirent. Cette annonce d'une restauration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique et d'unique dans la prophétie biblique. Alors, le prophète, on en parle un tout petit peu. Est-ce que vous sauriez deviner comment, dans l'hébreu, on dit le mot prophète ? Vous pourriez deviner, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en film et qui ont vu, par exemple, le film Avatar, et qui connaissent le nom de ce peuple bleu. Pas de fan d'Avatar dans cette... Ah, vous avez oublié. Mais au moins, après, vous pourrez vous en souvenir. Alors, c'est le mot Navi. Je ne sais pas si ça... Hein, le peuple Navi. Mais en fait, Navi, ça veut dire prophète. Et donc ce terme, il est utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner une personne qui est appelée et choisie par Dieu pour être son porte-parole. Donc on peut dire qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu sur terre. Et donc c'est ce qu'a fait Ésaïe. Il a été la bouche de Dieu sur terre, il a parlé et il a écrit aussi. Il a mis par écrit ce qu'il a reçu de Dieu. Ce qui fait qu'on a son beau livre avec de nombreux chapitres et de nombreux versets aussi qui ont été cités à nouveau dans le Nouveau Testament. Ésaïe, lui, il a vécu à Jérusalem et il a exercé son ministère dans le royaume de Juda. Donc c'était un moment où le peuple d'Israël était coupé en deux et lui donc, il a exercé son ministère dans le royaume de Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de 3 rois différents. Et selon la tradition, sous le 4e roi, il n'a plus pu exercer son ministère. Il a dû se taire. Voilà, et je ne sais pas si vous le savez forcément, mais a priori, il a mal fini, tragiquement, sa vie, selon aussi une tradition sciée en deux, dans un tronc. Et puis on a cette petite référence aussi dans le livre des Hébreux, quand il est question des héros de la foi. Donc voilà pour ces quelques petites cette introduction et ces mots de contexte au sujet de la prophétie. On va passer à la deuxième partie et à ces trois vérités qui se trouvent dans ce passage, trois vérités importantes au sujet de Dieu qui se dévoile comme le seul vrai Dieu, Dieu pour tous, Dieu de paix. Alors, on va les détailler, bien sûr, ces vérités. On peut encore rester à peine. Ouais, et c'est vrai que là, je n'ai pas mis d'animation dans mon PowerPoint, mais le petit italique qui devait normalement arriver un petit peu après, parce que je voulais vous poser la question de est-ce que vous avez remarqué dans la lecture du texte, justement, que cette prophétie, elle est liée au temps, à un moment. Et en fait, au tout début, là, au verset 2, ça démarre avec « dans l'avenir, il adviendra ». Cette précision temporelle, elle nous fait comprendre que le prophète Ésaïe parle d'un moment à venir, dans le futur, sans préciser vraiment quand. Et ça va être au récepteur du message d'essayer d'éventuellement discerner ces temps d'accomplissement. Et on va en reparler. Donc justement, première vérité, on peut passer à la slide suivante. Super, merci. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs. Ésaïe utilise une image, celle de la montagne. Aujourd'hui, bon, je pense qu'elle ne nous parle plus tout à fait de la même manière. Si je vous dis montagne, peut-être vous pensez plus, là, il a neigé, sport d'hiver, randonnée, beauté des paysages. Et vous n'allez peut-être pas penser à cette image à l'époque. Qu'est-ce qu'elle représentait ? Dans tous les peuples environnants, la montagne, c'était symbole de quoi ? Je ne vous entends pas, mais je pense que vous avez trouvé la réponse. Vous murmurez chacun dans votre... pour vous. Mais oui, c'est la présence de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. Dans les différents peuples alentours, c'est là où on installait les autels, les temples, les sanctuaires. Je n'entends pas. N'hésitez pas à parler plus fort, hein. Tout à fait, effectivement. Et voilà, aussi pour... j'arrive pas à voir s'il y a des plus jeunes, non, des ados, non, pas plus que ça, mais c'est vrai que aussi quand on étudie le monde grec, voilà, l'acropole, toutes ces choses-là, on sait bien que c'est le lieu de la divinité. Et donc là, Ésaïe, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que le temple de Yahvé, Dieu d'Israël, eh bien, il sera installé sur la plus haute des montagnes. Il va dominer tous les autres monts avec leur Dieu. Dans l'avenir, les idoles imaginées et construites de toutes pièces, elles n'auront plus de place. Tous les endroits de notre existence où Dieu n'a pas la première place, eh bien, ça appartiendra au passé. Et si parfois dans notre vie, on est tenté de prendre la place de Dieu, d'être en quelque sorte des petits dieux dans la manière de mener notre vie, eh bien là aussi, il n'y aura plus de doute. Tout genou fléchira devant lui. Aujourd'hui, parfois, on galère dans notre confiance, dans notre soumission à Dieu. On n'est pas au top. Mais je trouve que de lire un verset comme ça, c'est encourageant parce que ça nous dit qu'à l'avenir, il n'y aura plus de doute, plus de demi-adoration. Notre cœur, il sera entier pour Dieu. On le révérera pleinement, totalement. Deuxième vérité, Dieu pour tous. Tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Cette partie-là, elle est complètement extraordinaire et étonnante pour un écrit datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Israël est appelé nation sainte, nation mise à part. Et Dieu annonce que son peuple sera bien plus grand que ce qu'il est à ce moment-là. Bien plus grand et différent. Mélangé, j'ai envie de dire. Alors qu'Israël a été esclave des Égyptiens, qu'il a dû s'emparer du pays de Canaan en se séparant des autres peuples, et qu'il a dû vivre la plupart du temps sous la domination d'un autre, d'une puissance étrangère, eh bien, Dieu annonce que tous les peuples étrangers viendront l'adorer, lui, et suivront ses voies. Ce n'est pas seulement un ou deux étrangers qui viennent s'installer. Non, ce sont toutes les nations qui suivront le Dieu d'Israël. Ésaïe prophétise ainsi, Dieu sera accessible pour tous. Dieu sera pour tous. Mais à quel moment de l'histoire? À quel moment ces paroles se réalisent-elles? Alors, je reprends l'image du ricochet pour dire que cette prophétie comprend plusieurs accomplissements au cours de l'histoire. On pourrait parler d'un premier accomplissement après l'exil, une fois que Israël revient de Babylone, en fait, il y a quand même un éclatement de la nation qui va s'installer un petit peu partout. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diaspora juive. Et le peuple va apporter avec lui sa foi, ses traditions. C'est là que vont se créer les synagogues. Et dans ces synagogues, des païens vont venir et on va les appeler justement des craignants Dieu. Donc des personnes déjà étrangères vont se mettre à suivre la loi de Dieu. Ça, c'est un premier ricochet. Et le suivant, qui est peut-être beaucoup plus explicite, c'est dans le livre des Actes. Après la première venue du Christ. C'est l'ouverture très claire du salut aux nations. Dieu pour tous. Je crois que c'est une vérité vraiment essentiel à maintenir, notamment face au racisme, qui, je trouve, reste une tentation finalement très proche de nous, très proche de nos réalités. Alors, c'est vrai que c'est un point d'attention. Je trouve que l'Église, justement, c'est beau parce que vous, là, Église réunie, c'est l'accomplissement de cette prophétie « Dieu pour tous ». Mais je crois qu'il faut quand même aussi rester vigilant parce qu'on le voit bien autour de nous, même dans nos milieux professionnels, que parfois, ben, ça dérive. Et je crois que Dieu nous appelle là à être vraiment des lumières et à se dire que Dieu est pour tous et il n'y a pas à faire de différence. Troisième vérité, Dieu de paix. Il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Incroyable ces paroles, hein, n'est-ce pas? Le temps viendra où on n'apprendra plus l'art de la guerre. Le temps de la paix complète, le temps de la paix mondiale. Bon alors, quand on reprend toute la révélation biblique dans son ensemble, quand on reprend aussi les paroles de Jésus, on comprend que ce n'est pas pour maintenant, mais que ces paroles prophétiques font davantage référence à la fin de la Bible, à l'Apocalypse, par exemple au chapitre 21 qui nous parle de ces cieux nouveaux, cette nouvelle terre où Dieu habitera parmi nous, parmi tous les peuples, que la mort ne sera plus, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. La paix complète, la paix parfaite fait partie de notre espérance. C'est ce que Dieu nous promet. Mais je crois qu'on pourrait dire que c'est aussi un petit peu comme une graine que Dieu a déjà plantée. Une graine qui est déjà en train de germer. Oui, Dieu est le juste juge. Il est celui qui fera justice à tous les opprimés. Il est l'arbitre des peuples, comme ça nous est dit. Il mettra tous les peuples d'accord. Il mettra d'accord tous les hommes entre eux. Mais ce projet de justice et de paix est déjà bien en route. Mais quelle en est la preuve ? Qu'est-ce qui peut nous faire penser que ce verset est déjà en train de se réaliser ? Même à petite dose, on va dire. Est-ce que vous avez des idées ? Moi, je crois que Sylvain, il nous a déjà bien mis sur la voie ce matin, au travers de sa lecture. Il a lu dans l'évangile de Luc, et je relis un verset. Jésus est annoncé comme l'astre qui viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Jésus est déjà l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce que vous vous souvenez aussi, là, justement, dans cette période de l'Avent, les anges sont venus annoncer aux bergers la naissance de Jésus, et ils se sont mis à chanter. Ils ont loué Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » Jésus est déjà dans sa naissance, une première réponse, et il y a une deuxième réponse aussi, dans sa mort et sa résurrection. Et là, c'est Michel, qui est à ma droite, qui va nous lire ce fameux texte, qui pour moi est clairement une réponse à cette prophétie.
Maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons la paix, notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Il a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches.
Merci. Je trouve que le vocabulaire est assez explicite et insistant sur les effets de l'œuvre du Christ à la croix. Et c'est aussi, je crois, en ce sens que Dieu est l'arbitre entre les nations, puisque par le sacrifice de son Fils, il a payé pour toutes les injustices, le mal, l'inimitié, la haine. Et en son Fils bien-aimé, il offre la paix entre lui et les hommes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. Il n'y a plus d'ennemis. Il y a une seule humanité en Christ. Il n'y a plus lieu d'apprendre ou de faire la guerre, car en Christ, la paix, elle est parfaite, elle est complète. Et en tant que disciples du Christ, aujourd'hui, eh bien, nous sommes des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs de la réconciliation. J'arrive maintenant à la dernière partie, qui est une partie de mise en route, et dans laquelle on va voir encore reprendre quelques versets. Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Venez, montons, venez, marchons. Avec ce type d'invitation, j'imagine presque déjà une équipe sportive là. Peut-être, oui, peut-être sportive, mais après tout, toute autre équipe, pourquoi pas. Mais avec, en fait, cet élan de groupe, cette idée de faire équipe pour aller dans la même direction, pour s'engager dans un même challenge, un même défi à remporter. Et je crois que c'est une invitation qui est encore là pour nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, une invitation à faire équipe, à nous réunir, nous rassembler pour monter au mont de l'Éternel. Alors, traduction, chercher ensemble la présence de Dieu et lui rendre un culte comme on est en train de le faire ce matin. Nous unir et faire équipe pour marcher à la lumière de l'Éternel. Traduction, suivre la voie de Dieu, la voie avec un E, avec un X, les deux sont parfaites. Suivre la voie de Dieu, agir selon sa volonté ensemble, d'un même cœur et d'une même pensée. On n'est pas appelé à vivre notre foi seul, de manière isolée. Le projet de Dieu, c'est de bâtir son Église, de former un peuple, une famille réunie autour de lui, marchant à sa suite, se serrant les coudes aussi et s'encourageant à persévérer jusqu'au bout. Ces versets-là, ils sont forts. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues. Et de leur lance, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc, et marchons à la lumière de l'Éternel. Là encore, c'est une image qui est utilisée pour parler de l'espérance qu'on peut avoir. Alors comment on comprend cette image? Elle est bien sûr parlante. On en a déjà parlé, plus de guerre mais la paix, plus besoin d'apprendre l'art de la guerre, les stratégies militaires, d'attaque, de défense, etc. Mais on voit que l'image, elle va plus loin, c'est pas tout. Il y a une transformation, une conversion. Tout ce qui était investi pour l'effort de guerre, les outils, etc., sont transformés pour promouvoir et maintenir la paix. Voici l'image, les outils de guerre et porteurs de mort seront transformés en outils d'agriculture pour faire germer la vie. La guerre produit la mort, l'agriculture produit le vivant pour nourrir et faire vivre. Alors ça nous pose quand même question, comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait traduire de manière concrète dans nos vies cette image pour que la prophétie se réalise déjà un petit peu. On peut soutenir ou s'investir dans des associations, des projets qui œuvrent pour la paix, pour la réconciliation. Bon, bien souvent, c'est pas... Enfin, parfois, c'est un petit peu le privilège des Mennonites, mais je crois qu'il ne leur est pas réservé. On peut aussi soutenir les associations qui sont en soins pour les victimes. Enfin, je pense qu'il y a différentes manières de s'investir pour promouvoir la paix, soutenir la paix. Mais je pense qu'on pourrait aussi peut-être aller un petit peu plus loin. On pourrait élargir le sujet. Si on se dit que la guerre, c'est pas seulement au loin, en Ukraine, au Moyen-Orient, si on se dit qu'il y a déjà des petites guerres qui se jouent tout proche de nous. Je m'explique. Est-ce que la guerre ne commence pas quand on porte préjudice à notre prochain ? Lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on critique, lorsqu'on rabaisse. Ce sont déjà des formes de petites guerres qui tuent à petite échelle. Et en fait, ça nous renvoie à un problème, on va dire, de base, qui est, je dirais, la convoitise et la jalousie. Et Sylvain nous en a aussi parlé. Dès les premières pages de la Bible, on apprend que la convoitise et la jalousie ont déjà fait leur travail pour produire la mort. Caïn a tué son frère Abel. Et l'histoire s'est poursuivie avec son lot constant de jalousie, de rivalité, et par voie de conséquence, son lot de violence et d'homicide. Pour n'en citer que quelques-uns, les frères de Joseph, qui l'ont vendu en esclave, le roi David, qui a tué pour obtenir le sujet de sa convoitise, les chefs religieux à l'époque de Jésus et tout le peuple, au final, par jalousie, ils ont mis Jésus à mort. Alors on peut se dire qu'à titre perso, on est loin de ce type d'expérience, mais je vous propose un extrait de livre qui pourrait peut-être bien nous rejoindre, qui nous parle de ces petites violences qui font tout de même pas mal de ravages. Et c'est un extrait du livre de Simone Paco, L'évangélisation des profondeurs. On convoite ce qu'a l'autre. On convoite ce qu'est l'autre. Parce qu'après tout, on a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas être reconnu. On a peur de ne pas avoir de valeur. Ou encore de perdre notre place. On a ce désir de prendre, d'accaparer. On veut les dons de l'autre, son intelligence, sa forme de communication, son charme qu'il fait qu'il mobilise l'attention. Cette convoitise qui se manifeste sous différentes formes va amener la violence envers l'autre, la guerre. L'envie est meurtrière. Elle va amener à tuer l'autre pour prendre ce qu'il a, ce qu'il est, ou pour l'empêcher de profiter de ce que nous, nous n'avons pas, de ce que nous ne sommes pas. Il y a de multiples manières de tuer l'autre à partir de la convoitise. En le dévalorisant, en le méprisant, en cherchant à détruire sa créativité, en le déstabilisant par des arguments mensongers. Cette critique destructrice n'a rien d'un véritable discernement, car elle est brouillée à la base par la concurrence. Mais ça, encore faut-il s'en rendre compte. Ce genre de comportement est malheureusement fréquent dans les relations de groupe et rarement reconnu pour ce qu'il est. On peut aussi tuer l'autre en le niant, en faisant preuve à son égard d'une totale indifférence, le rendre complètement invisible. Ou encore, en se valorisant soi-même à l'excès. Alors, à la place de ce type de guerre déguisée, Dieu nous invite à rendre les armes et même à les transformer en outils bienveillants et porteurs de vie. Dieu nous appelle à construire notre identité propre afin qu'on n'ait pas la tentation de voler celle de l'autre. Il nous invite à être bien dans nos baskets pour vivre une relation juste, équilibrée à l'autre. Il s'agit de trouver notre place en Dieu, là où notre valeur n'est jamais remise en question, parce que Dieu nous aime d'une manière parfaite. Et c'est même, on pourrait parler d'amour sur mesure, parce que avec l'amour de Dieu, il n'y a pas de place pour la comparaison, la concurrence, Dieu ne nous met pas en concurrence. Il nous aime chacun, chacune, de manière unique. Et donc, si on va vers son amour, véritable défi, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais à moitié vide. Mais voilà, il nous arrive d'être à moitié plein, à moitié vide, parce qu'on a du mal à recevoir pleinement cet amour parfait. Donc ce matin, c'est encore une invitation pour nous à aller chercher, recevoir cet amour du Très-Haut qui nous aidera à être des ambassadeurs de paix. Dieu nous invite à faire la paix avec lui-même, à recevoir sa paix et à faire la paix avec les autres. Et je crois que ce type de mise en route, petit à petit, petit pas après petit pas, saura porter de plus grands fruits et peut-être même, pourquoi pas, à échelle planétaire. Je conclus courtement. Les trois vérités dévoilées dans ce passage, Dieu, seul vrai Dieu, Dieu pour tous, Dieu de paix, elles attendent encore toutes un accomplissement parfait lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'heure de l'établissement complet du royaume de Dieu. Mais il faut dire que ces trois vérités, eh bien, elles sont aujourd'hui un moteur pour nous, comme un panneau directionnel. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à proclamer son royaume sur terre, à en être les témoins et à le mettre en route grâce à la présence du Saint-Esprit en nous. Nous sommes les ambassadeurs, les ambassadrices du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui et demain, nous proclamerons et vivrons ces trois vérités. Dieu seul vrai Dieu, Dieu pour tous. Dieu de paix. En tant qu'ambassadeurs, nous nous attacherons à nous encourager les uns les autres à marcher à sa lumière. Sa lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas étouffé. Oui, ensemble, suivons Jésus, la véritable lumière venue dans le monde pour éclairer tout être humain. Amen.
Merci beaucoup. On va chanter « Je veux être artisan de paix » pour conclure ce beau message de Marie-Julie. Merci beaucoup Marie-Julie. On n'est pas seulement des partisans de la paix, des artisans de paix. Un artisan, je pense qu'on en a assez dans l'assemblée pour savoir ce que c'est quelqu'un qui fait, qui crée avec ses mains. Et le chant qu'on chante, c'est « Enseigne-moi tes voies pour agir comme toi. Je veux être artisan de paix, même si mes mains sont abîmées. Seigneur, je veux te ressembler, donner ma vie pour refléter ton amour parfait. » Ce chant, il est engageant. Il nous rappelle que pour entrer un peu dans cette promesse, pour transformer les épées en stocks de charrues, ou la version 2025, les chars d'assaut en moissonneuse batteuse, on doit arroser cette graine de paix que Dieu il a plantée en nous. Est-ce qu'on est prêt à laisser notre orgueil, notre convoitise de côté, dans les petites choses comme dans les grandes? Est-ce qu'on est prêt à marcher sur les chemins de la paix? Alors si vous êtes prêt à répondre à cet appel que nous a lancé Marie-Julie ce matin, je vous invite à vous lever et à chanter ce nouveau chant avec nous. J'ai ta mis en croix. Trop de fois je t'ai tourné le dos. Pourtant, Seigneur, tu ôtes mon fardeau. Enseigne-moi tes voies pour agir comme toi.
Je veux être artisan de paix, même si mes mains sont abîmées. Seigneur, je veux te ressembler. Donner ma vie pour refléter ton amour parfait. Souverain, on t'a maltraité, rejeté, mais tu as choisi de pardonner. Enseigne-moi tes voies pour aimer comme toi. Je veux être artisan de paix, même si mes mains sont abîmées. Enseigne-moi tes voies pour aimer comme toi. Je veux être artisan de paix, même si mes mains sont abîmées. Seigneur, je veux te ressembler. Donner ma vie pour refléter ton amour.
Dans l'évangile de Jean, dans ces longs chapitres qui précèdent tout juste cette dernière partie de la vie de Jésus, où il va être arrêté, Jésus dit : c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Pas à la manière du monde, mais en donnant sa vie pour notre salut et pour le salut du monde.
Je lis dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le règne de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis s'en allèrent au Mont des Oliviers.
Nous allons partager ce temps de Sainte-Cène. Voilà, merci. Chacun est invité à recevoir ce prix qui nous est offert, le pardon des péchés, d'entrer dans cette alliance avec Dieu. Chacun est aussi libre de ne pas prendre le pain et la coupe s'il ne se reconnaît pas dans ce que Jésus a fait pour nous. Et pendant que nous partagerons le pain et le vin dans les petits godets, Marie-Julie pourra apporter la coupe à ceux qui le désirent en levant la main. Seigneur, merci pour le don de ta vie, merci pour le pardon des péchés. Apprends-nous à pardonner, apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Que ta vie pénètre en nous, tandis que nous prenons, nous partageons ce repas tous ensemble. Amen.
D'exprimer une prière personnelle pendant ce temps.
Seigneur, merci pour cette paix que tu nous as acquise, mais que tu nous appelles à transmettre, à faire vivre, à incarner dans notre quotidien. Que ta présence nous accompagne pour cela. Amen. Nous allons passer au temps des annonces et en même temps le temps de l'offrande qui, nous le rappelons, est tout à fait libre. Vous pouvez mettre quelque chose dans les paniers qui vont passer, vous pouvez utiliser Twint, vous pouvez utiliser les virements, voilà, et en toute liberté.
Voilà. Les annonces arrivent depuis derrière, je dois dire, on n'a pas de créativité à lire. Et puis, vous le savez, je suis responsable des annonces, je les fais souvent, et aujourd'hui je suis un peu fatigué, je me suis dit, je ne vais pas les faire. C'est vous qui allez les faire, c'est d'autres personnes qui vont les faire. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Première annonce, ça concerne ce qui se passe mardi soir à 20h. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de nous dire ce qui se passe mardi soir à 20h? Je ne vais pas demander à quelqu'un qui est en visite, vous inquiétez pas. Ah, ben voilà, attends, il faut le dire plus fort.
L'atelier biblique.
Exactement, vous saviez tous, n'est-ce pas? Bon, atelier biblique, je vous rappelle que le programme complet est sur notre site web, aussi sur l'écran, à l'entrée, si vous avez envie de savoir le thème. Voilà, tout est disponible. Ma deuxième annonce, la personne qui voulait la faire n'a malheureusement pas pu se libérer ce matin, mais elle nous a fait une petite vidéo. Regardez ça. Le dimanche 14 décembre à 15h, nous vous invitons à notre fête de Noël à l'église évangélique de Mérin. Au programme, un moment festif qui mélangera modernité et tradition avec des chants, de la danse et une narration originale de l'histoire de Noël. Nous souhaitons créer un temps chaleureux, ouvert à tous, où chacun pourra se laisser porter par la beauté de cette histoire et vivre un moment simple, joyeux et inspirant. Et pour finir, nous nous retrouverons autour d'un buffet généreux rempli de saveurs de Noël et de petits plats à savourer ensemble dans une atmosphère conviviale. Nous réjouissons d'ores et déjà de vous rencontrer le 14 décembre pour partager ensemble un moment joyeux et festif autour de Noël. Cette personne me ressemble beaucoup. C'est pour jumeaux, c'est pas moi. Cette vidéo se trouve sur tous nos réseaux sociaux. Ça, hein, Facebook, Instagram, YouTube, elle est là aussi pour être partagée, donc allez-y, ça peut aider des fois à inviter quelqu'un, hein. Est-ce que tu ne viendrais pas dimanche prochain, regarde la petite vidéo, voilà. Si jamais vous êtes à l'aise avec ça, n'hésitez pas. Troisième annonce, je vais m'approcher de Chantal, c'est elle qui va faire ça.
Ben oui, parce qu'après Noël, ben y a le nouvel an. Alors, on vous propose de le fêter tous ensemble. Heureusement, j'ai avec moi une équipe de choc, donc les baptistis, les chansons, les collets et les recettes. Donc je vous ai laissé une liste dans le foyer et vous pouvez vous inscrire. Donc on fait la fête à partir de 19h. Alors venez nombreux, invitez aussi avec vous des personnes seules qui pourraient se sentir vraiment seules ce soir-là pour qu'on puisse fêter ensemble le passage à la nouvelle année.
Merci beaucoup et merci d'organiser tout ça, c'est super, on se réjouit. Puis pour la dernière annonce, je vais inviter Joanne à me rejoindre. Merci d'avoir.
Merci, bonjour à tous. Donc Mathieu, au début du culte, a parlé de quitter ses préoccupations terrestres, de la lourde tâche de vous ramener dans les réalités terrestres et bassement matérielles. Mais je crois que ce n'est pas un problème, ça fait partie d'une vie d'église aussi. Alors, ça c'est juste un point sur les finances. Donc nous avions voté l'année passée sur un budget pour cette année, donc 2025 qui va bientôt se terminer. Et puis c'est un budget qu'on s'était fixé à 306 000. On accuse un léger retard dans nos dons et nos offrandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église vit uniquement de vos dons. Il n'y a pas un État ou une institution qui nous verse de l'argent. C'est uniquement nos membres et amis de l'Église qui participent, soit, comme l'a dit avant Sylvain, soit par virement bancaire, soit par les offrandes du dimanche matin. Voilà, donc ça c'est la situation au 39 mois. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Juste pour expliquer comment nos dons sont utilisés dans l'Église. Parce que c'est aussi bien de savoir comment est-ce que cet argent est distribué dans l'Église et à quoi il sert. Et là, vous avez une répartition qui montre que 66%, donc les deux tiers de ces dons, sont pour payer les salaires de nos pasteurs, assistants pastoraux et responsables jeunesse. Donc, trois personnes qui représentent 1,5 postes. Et ça, c'est ce qui nous permet de maintenir cette activité et ce dynamisme que nous avons dans l'Église, mais pas que, aussi par vos actions bénévoles qui permettent, comme on l'a entendu dans l'annonce précédente, des actions comme Nouvel An ou autres qui sont grâce à vous et vos services bénévoles. Les autres éléments qui sont importants, c'est la charge du bâtiment. Le bâtiment a un coût pour environ 14-15%. Et puis, notre fédération d'église, donc nous sommes membres d'une fédération qui, elle, aussi vit des dons des différentes églises et puis aussi de certaines fondations qui permettent de chapeauter au niveau romand les activités ou défense de nos intérêts, même au niveau politique. Et puis, vous voyez, après les petits pourcentages qui se détachent sur la gauche, qui sont plutôt pour des activités, différents frais, des projets que nous avons en église, et différents éléments de soutien sociaux que nous avons au travers de notre commission sociale. Voilà pour les éléments d'utilisation des dons. Et puis la dernière slide, qui est le budget qu'on a adopté pour l'année prochaine, sous la colonne 2026, bien sûr, où on a plutôt, par rapport à l'expérience de l'année passée, revu un tout petit peu à la baisse les rentrées des dons et des offrandes, mais qui dans l'ensemble s'équilibre plus ou moins avec un résultat légèrement négatif, mais sans inquiétude. Alors bien sûr que je vous ai ramené dans des conditions très terrestres, et je n'ai pas envie de vous laisser là-dessus, j'ai envie de vous faire un petit peu remonter, parce qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais prendre conscience que notre Église vit uniquement parce qu'on donne chacun et chacune, nous donnons de l'argent à notre Église, et qui permet d'avoir toutes ces activités. Et puis, je voulais juste vous lire un verset qui dit que, dans Romains 8, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Donc, je vous recommande d'aimer Dieu, de regarder à Jésus-Christ. » Merci.
Voilà, Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui pourvois toutes choses dans nos vies. Nous te remettons ceux peut-être d'entre nous pour qui des situations financières peuvent être difficiles. Te demandons la sagesse pour ceux qui gèrent les finances de l'Église et de notre fédération. Et nous nous remettons entre tes mains avec confiance. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Après sa résurrection, alors à nouveau Jésus leur dit : la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Puissiez-vous être des porteurs de paix et d'espérance dans votre quotidien. Bon dimanche.